Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse ce matin dans la présence du Seigneur autour de sa parole que nous allons ouvrir tout de suite. Je vous propose que nous fassions une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 6, à partir du verset 47, et de puiser à travers cet enseignement que Jésus nous donne, que nous allons méditer ensemble, tout le sens que peut représenter notre communion avec Dieu et notre relation avec lui. On pourrait peut-être résumer de cette manière: Dieu en nous et nous en lui. Alors on va lire cela, si vous voulez bien. Jean, chapitre 6, verset 47. Et voilà ce que nous avons devant nos yeux. Jésus dit cela: « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant : comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 : « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit : « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous a un démon, et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. » Voilà, que Dieu nous éclaire dans cette lecture, et j'aimerais y apporter un commentaire qui peut et qui doit fortifier notre foi, et particulièrement mettre l'accent sur le sens de ce que nous faisons régulièrement, chaque semaine, lorsque nous prenons le repas de Sainte-Cène. Ça fait partie des sujets que Jésus a voulu laisser à ses disciples pour qu'ils sachent, eh bien, la valeur de ce rassemblement fraternel autour de Jésus, autour de son sacrifice. Un des enseignements de Jésus qui a choqué le plus est probablement celui-ci. Vous avez remarqué avec moi qu'il y a des disciples qui l'ont suivi jusqu'alors et qui vont se séparer de lui parce que Jésus a dit ces choses. Et je crois que dans le contexte où les choses ont été dites hier, rapportées par l'Évangile, Jésus a fait tout bonnement scandale en disant ce qu'il a dit. Lors du dernier repas, avant d'être crucifié, Jésus a prononcé ces paroles devant ses disciples que je restitue. Il est dit ceci, Jésus prit une coupe et il la redonna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs. » Ces mots font apparaître deux choses importantes. Le sang qui est répandu, c'est-à-dire la croix, et le sang qui est partagé, ce que nous appelons communément, tout simplement, le repas de Sainte-Cène. Le sang répandu et le sang partagé. Vous le savez aussi bien que moi, le sang d'un homme a une valeur unique qui est celle de la vie. C'est précieux, c'est important. Le sang symbolise à la fois la vie et la mort. On le sait tous. Et il y a une foule d'expressions qui tournent autour du mot « sang » dans notre langage pour parler finalement de la vie et de son contraire. On parle de sang royal ou de sang bleu. Vous connaissez l'expression. On parle également avoir du sang dans les veines pour quelqu'un qui est courageux. On parle également d'avoir du sang sur les mains pour un criminel. On parle également d'un coup de sang pour celui qui se met en colère. On le dit. On fouette jusqu'au sang, c'est-à-dire martyriser quelqu'un. Avoir le sang froid ou le sang chaud. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire de commentaires, vous comprenez ce que ça veut dire. Un sang mêlé, c'est quand il y a eu, eh bien là, un apport d'une autre race. Se faire du mauvais sang. Ça vous arrive jamais, naturellement. Quand on dit « le sang m'a fait qu'un tour », alors il n'en fait pas qu'un. Hein. Mais c'est une expression également. Peut-être que vous connaissez cette expression aussi, « se payer une bonne pinte de sang ». Vous savez ce que ça veut dire ? Connaissez pas ? Ça veut dire une bonne partie de rire. Alors vous l'avez appris, vous verrez quand vous... C'est une expression française qui veut dire « se payer une bonne pinte de sang ». Tourner le sang de quelqu'un, c'est quand on lui fait peur ou quand on va l'effrayer. Et vous remarquerez avec moi que dans toute l'histoire humaine, le sang a toujours revêtu un caractère précieux qu'il ne faut ni salir, ni voler, mais c'est cependant la convoitise du sang, c'est-à-dire le faire couler, qui est la cause de tous les fléaux ici-bas. Et ça, c'est quelque chose de terrible. La société, depuis les temps immémoriaux, a lutté contre le sang qui coule. Alors on appelle ça les guerres, et puis on appelle ça tout ce qui va avec, naturellement. Le sang qui coule évoque souvent la mort ou son éventualité. Parce qu'on sait que quelqu'un qui va au bout de son sang, eh bien c'est quelqu'un qui va mourir. Forcément, et on donne ce nom, eh bien tout simplement une hémorragie. La couleur rouge est celle qui rappelle le sang. Et vous remarquerez avec moi, elle est très très fréquemment représentée sur les drapeaux des nations, à commencer par le nôtre, bleu, blanc, rouge. Donc c'est toujours la même signification. Et on parle à ce moment-là de donner son sang pour la patrie. C'est une manière très, finalement, très élégante de dire, eh bien voilà, des hommes sont morts pour sauver, eh bien, la nation. Dans la culture juive, le sang a une signification de premier plan. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous verrez que le mot sang revient assez souvent et c'est assez rébarbatif, c'est assez répugnant tout cela. Et son histoire, l'histoire d'Israël ou l'histoire des hommes en général, son histoire d'Israël a été tumultueuse et commence au premier jour finalement de la création par le sang d'Abel. Et si je restitue le texte, il est dit, c'est Dieu qui parle. La voix du sang de ton frère, Abel, crie de la terre jusqu'à moi. Pour nous dire et nous interroger, est-ce que le sang parlerait ? Et le sang parle. D'une autre manière que nous, peut-être, mais il parle quand même. Ensuite vient le déluge. Et un nouveau monde avec le déluge. Et Dieu donne alors, dans le renouvellement de toutes choses, eh bien le sang, c'est la valeur, le prix du sang pour garantir la vie. Et si je m'en tiens au livre de la Genèse, il est dit ceci au chapitre 9 et au verset 4 à 6, « Pour qu'il y ait de nouvelles dispositions, pour que véritablement le sang ne coule plus sur la terre, Dieu dit seulement, « Vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai de tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Il y avait des lois très strictes et on ne devait pas tuer. Dans les 10 commandements, il y en a un qui dit ceci, tu ne tueras point. Et tu ne te tueras point non plus. Hein. Je le dis parce que les temps sont un petit peu aussi à préciser les choses aujourd'hui. Puis apparaît ce symbole énorme et prophétique qui marque toute la vie religieuse des Israélites. C'est l'agneau pascal. L'agneau pascal est avec des milliers et des millions d'agneaux qui ont été sacrifiés dans l'histoire, dont le sacrifice de la vie de cet agneau fait échapper à la condamnation et absout tous les péchés. C'est ainsi que l'Ancien Testament nous déclarait le pardon de Dieu. Il fallait qu'il y ait là le sang qui soit versé pour que la nation d'Israël puisse être absoute de ses péchés. Plus tard, Moïse va ériger en loi perpétuelle le respect sacré de la vie comme étant celui, finalement, d'un don de Dieu. Et on l'a dit il y a un instant, parmi les 10 commandements, c'est « tu ne tueras pas ». C'est-à-dire « tu ne feras pas couler le sang ». Toutes ces prescriptions n'ont pas empêché le sang de couler à flot sur la terre depuis. Il semblerait qu'avec l'interdiction, ça a excité les hommes à faire couler précisément le sang. Alors on pourrait dire, mais tout ça c'est une vieille histoire, ça remonte à des milliers et des milliers d'années. Quand on regarde notre pitoyable 20e siècle, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de sang qui a coulé. Avec ces 2 dernières guerres mondiales, et puis ça ne s'est jamais arrêté parce que c'était un embrasement général dans notre monde. Alors ça nous laisse réfléchir, pourquoi Jésus a-t-il dit ces choses? C'est qu'il y a une raison. Dans la conscience morale et collective des hommes, le sang est quelque chose qui tache, qui répugne, quelque chose qu'il faut laver aussitôt, dont la vue crée le malaise. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, personnellement, quand je vois du sang, c'est quelque chose qui me répugne. On n'aime pas ça par nature, voir du sang. Alors, quelquefois, il peut nous arriver d'avoir des petits bobos, des petits accidents, et bon, ben, on s'empresse de nettoyer et puis de cacher. Et quand on le voit, quand on est témoin d'un accident, quelquefois effroyable sur la route, c'est quelque chose qui nous bouleverse, qui nous retourne dans tous les sens. Alors, je ne comprends pas que l'on fasse autant de films et autant de reportages sur des choses effrayantes, parce que vous savez, les films sont rouges, hein, de plus en plus rouges, hein. La violence, enfin ça c'est une parenthèse que je suis en train de faire. Mais ça crée le malaise. Et on n'a pas l'habitude et on ne veut pas voir le sang couler, instinctivement. Et pourtant, Jésus est venu tout bouleverser en parlant de son sang. Il a certainement indigné les gens et il a dépassé les bornes. Quand nous relisons cette phrase, « Si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Mon sang est vraiment un breuvage. Alors comment, Seigneur, je puis comprendre une telle chose? Déjà de voir le sang, mais de le boire. C'est encore autre chose. Alors là, je ne suis plus. C'est pour ça que vous avez vu avec moi qu'il y a des disciples, peut-être même de la première heure, qui ont dit, si cet homme nous parle des choses comme ça, eh ben, c'est certainement pas l'envoyé de Dieu, c'est certainement pas un prophète. On le laisse tomber et on lui tourne le dos. Vous avez remarqué, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? On l'a lu ensemble, parce que Jésus avait dit « Mais si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir la vie en vous-même. » Imaginez le choc et la répugnance que cela a suscité naturellement. Une culture, des siècles d'ordonnances rigides à l'égard du sang et du respect de la vie, avec ces paroles de Jésus, vont voler en éclats. C'est un véritable tremblement de terre que Jésus a donné dans cet évangile 6, dans cet évangile de Jean, chapitre 6. Et, redisons-le, n'ayons pas peur de l'affirmer, c'est qu'en entendant ces paroles, quelques-uns se retirèrent, certains sans rien dire, d'autres en murmurant, Et voilà que ses intimes vont l'abandonner jusqu'à ses frères et sa mère qui vont le déclarer insensé. C'est écrit dans la Bible, ça. Hein ? On va même le traiter de fou. On va même dire que Jésus est un samaritain, et plus encore parce que c'est un outrage, on dira même que c'est un démon. Entre autres parce que, finalement, il a dit cela. Et probablement que dans l'esprit de beaucoup de gens, beaucoup de juifs, et peut-être des gens qu'ils penseraient encore aujourd'hui, c'est que Jésus venait de dire des choses qui méritaient tout simplement la mort. On ne parle pas comme cela. On ne dit pas des choses comme ça. Si vous ne mangez ma chair ou la chair du Fils de l'homme et que vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Boire le sang.
C'est quelque chose d'horrible.
Boire le sang a dépassé les limites du tolérable et du supportable, étant le pire, la pire des abominations rencontrées même chez les sauvages. Chez les gens civilisés comme nous le sommes, alors c'est quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose d'impossible, inconcevable. On se dit, mais ça peut être que finalement, une culture, ou tout simplement, ça ne peut être que des pratiques de sauvages. Et pourtant, et vous allez voir que nous allons aller vers quelque chose maintenant, parce que j'ai voulu évacuer un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir de terrible et de choquant pour notre conscience humaine, ou notre conscience d'occidentaux, ou tout simplement, dans notre monde moderne, eh bien, nous évacuons tout ça. Et pourtant, Jésus a bien dit « buvez mon sang ». Il aurait peut-être pu être plus modéré, certainement, pour n'offenser personne, du genre « répandez mon sang », « faites l'aspersion de mon sang », au lieu de dire « buvez-en ». C'était déjà quand même un peu moindre, bien que ce soit quand même déjà terrible. Le sang répandu est synonyme de mort et de scandale. Quand quelqu'un est assassiné, c'est scandaleux. Quand quelqu'un est assassiné sauvagement, crapuleusement, alors là, c'est une horreur, c'est une abomination, parce que le sang a été versé. En parlant ainsi, le Seigneur poursuit un objectif. Sang répandu, mais aussi sang partagé. C'est ce qu'on a dit au départ. Sang répandu, mais aussi sang partagé. Par cette simple précision, buvez-en tous. C'est ce que nous faisons et c'est ce que là des milliers et des milliers de chrétiens font chaque dimanche. C'est ce que nous faisons dans des milliers d'églises. Nous prenons le repas de Sainte-Cène et qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons ensemble le sang du Christ. Jésus va introduire une nouvelle. Il va introduire dans le monde quelque chose de révolutionnaire. Le sang. Précisément le sien. Son sang n'est plus celui de la mort ou qui entraîne la mort, mais le contraire. Le sang de Jésus donne la vie. Et ça, c'est un point fondamental à préciser ce matin. Le sang de Jésus ne donne pas la mort, il donne la vie. On s'en souvient. Dieu avait formellement interdit de boire le sang car la vie était quelque chose de tellement sacré qu'il ne fallait pas qu'elle rentre dans la vie des hommes. Dans Lévitique, au chapitre 17, je restitue le texte. Il est dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. » Donc il n'était certainement pas question de boire du sang. Or, en renversant la conscience de ses compatriotes, Jésus maintenant annonce le contraire. Et je le répète à dessein, si vous buvez mon sang, vous avez la vie. Et vous n'avez pas seulement la vie, mais vous avez la vie éternelle. Ma vie entrera en vous, alors faites-le. C'est paraphrasé, mais c'est quand même dit. C'est comme ça que nous avons à comprendre les choses. Alors un nouveau symbole apparaît. Le partage et la commémoration de la Sainte Cène n'est pas seulement le souvenir de la mort de Christ fait sur la croix, où il a accompli l'expiation des péchés de l'humanité, mais le repas de Sainte Cène est une prise de conscience qu'il est vivant de sa vie présente et permanente au milieu de nous, et mieux encore, il est en nous. c'est un enseignement ce matin sur le repas de Sainte-Seine, on l'a bien compris. Parce que souvent nous faisons les choses et nous le faisons machinalement, et que nous ne prenons pas tout à fait la dimension et on ne mesure pas toute l'étendue de bénédiction et de grâce, de guérison même, de guérison physique, de guérison morale, de guérison psychologique, de guérison intérieure à travers le repas de Sainte-Seine. Il y a des frères et des sœurs qui, en prenant le repas de Sainte-Seine, ont été guéris de leurs souffrances physiques, ont été guéris de dépression, ont été guéris, libérés de toutes sortes de choses qui faisaient, eh bien là, qu'ils étaient renfermés dans un étau qui les étouffait et qui les empêchait de vivre. Le repas de Sainte-Seine est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Ça, c'est important de le dire et de le rappeler ce matin. Mes frères et mes sœurs qui êtes là et qui êtes malades, écoutez bien. Mes frères et mes sœurs qui êtes là en lutte peut-être avec des péchés dans votre vie, écoutez bien. Vous qui peut-être traversez des moments de difficulté, de dépression ou autre chose, écoutez bien. Parce que le sang dont il est parlé, c'est une délivrance. C'est une libération. Ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Alors nous allons aller plus loin maintenant. La vie de Christ, non pas seulement avec nous, mais en nous. Un rappel nécessaire. Biologiquement, je veux dire deux mots, je ne suis pas médecin, mais quand même le dire, le sang est régénérateur de la vie. On le sait, on l'a appris. Il nourrit, il entretient chaque cellule du corps, car les éléments vitaux qu'il véhicule, principalement l'oxygène, les substances nutritives, les agents de défense de l'organisme, eh bien, sont là dans le sang. Et quand le Créateur nous a donné ce fluide, ce liquide, enfin ce liquide en tous les cas, c'est qu'il savait très bien qu'il y avait quelque chose de vital pour l'homme. Mais ça, c'est l'aspect physiologique, c'est la corporalité, ça, on peut dire. En conséquence, et par analogie, nous ne pouvons vivre moralement et spirituellement sans être nourris, fortifiés, vivifiés, que de la vie qui nous vient de Jésus-Christ. On est chrétien ou on ne l'est pas. Nous, pour nous, nous nous attachons non pas à une église, à une religion, à un mouvement, à un chef qui serait le pape ou qui serait un président de ceci et cela, ou même à un pasteur, nous nous attachons à Jésus. Et ça, c'est à souligner aussi. Il a fallu que Jésus offre son sang, qu'il soit répandu, afin d'être partagé. Afin d'être partagé entre tous, et cela par le geste de la Sainte-Seine, qui réunit finalement les chrétiens entre eux, et en même temps qui les unit à Christ. Quand nous nous levons pour prendre le repas de Sainte-Seine, nous nous sommes en union avec Jésus, et nous sommes tous en union les uns avec les autres, et tous en Jésus. C'est une unité, c'est un corps. Parce que nous avons été enseignés qu'en Christ, eh bien, nous avons tout pleinement en lui, et qu'il est sauveur, qu'il est Seigneur, qu'il est notre Dieu. Je rappelle que dans la dernière soirée, en compagnie de ses disciples, Jésus a partagé un repas commun. Et quand il a repartagé ce repas commun, il a prononcé ces paroles qui ont été répétées des millions de fois. Depuis, ça fait 2000 ans. Et il dira, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » C'est ce que nous disons tous les dimanches lorsque nous sommes debout pour prendre le repas de Sainte-Seine. Jésus a dit, mais c'est mon sang qui est répandu, un sang d'alliance. Il est répandu pour plusieurs. Alors, à ce moment-là, il fait boire à ses disciples, devinez quoi ? Du sang ? Non. Il fait boire ? Du vin. Ah, très bien. Il fait boire non pas du sang, mais il fait boire du vin. Parce qu'il y a encore un sens derrière tout cela. Le vin qui représente son sang, et je le rappelle, qui est l'emblème de son sang. Pas du sang directement, mais du vin. En ajoutant, je vous le dis, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Ce sont des paroles extraordinaires, ça. Sang répandu que Jésus physiquement allait vivre quelques heures plus tard en se laissant clouer sur une croix. Et il est impossible que lorsqu'on est cloué sur une croix, que le sang ne coule pas, hein. Alors pour bien s'assurer qu'il coulait, on lui a mis des clous dans les mains, des clous dans les pieds, et en plus on lui a percé le côté. Alors en principe le sang ça sort, hein. Il jaillit. Et c'est quelque chose d'horrible que ce spectacle de la crucifixion, comme d'ailleurs toutes les tortures que l'on a pu infliger aux hommes. De toute manière, à partir du moment où le sang coule, c'est quelque chose d'horrible. Et à ce moment-là, il leur donne la leçon et les prépare à vivre ce qu'il ne va pas moins les scandaliser, c'est-à-dire la crucifixion. D'ailleurs, Pierre prendra la parole en disant « Mais ça ne t'arrivera pas, Seigneur, moi je suis là pour te défendre. » Et le pauvre Pierre, qui voulait éviter finalement le scandale, va couper l'oreille de Malchus, vous savez, et il va faire couler ça. Heureusement que Jésus pose sa main et guérit immédiatement Malchus. La crucifixion pour que le sang coule. Pour que le nôtre ne coule plus, mais que le sien coule pour tous les hommes. On l'a remarqué, il n'y a pas à s'offusquer. Jésus a pris du vin en disant « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, ayant pris une coupe. » Et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Et depuis 2000 ans où les chrétiens dignes de ce nom se réunissent, où là nous partageons le pain et le vin, non pas seulement le pain, parce que certaines églises ont dit non, ça suffit comme ça, on va faire la moitié, comme si finalement eh bien, on pouvait se permettre de faire n'importe quoi avec la parole de Dieu et avec le sacrifice de Jésus, parce que là c'est quand même assez audacieux. Jésus a donné cette parole, et bien voilà, vous ferez ceci en mémoire de moi. Tout ceci s'accorde avec cette merveilleuse parabole qui explique bien le sens du sang de Christ qui doit être maintenant partagé. Quand Jésus dit « Mon sang est vraiment un breuvage », Jésus répond par une autre parabole, et vous allez voir toute la jonction qu'il y a entre le sang et le vin. Il dira « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Voyez le rapport qu'il y a entre eux ? J'espère que vous connaissez bien votre Bible, et vous le savez, mes amis. Peut-être pour ceux qui nous rejoignent, c'est peut-être un peu difficile ce matin, mais c'est pourtant la vérité biblique et évangélique. Mais pour ceux qui sont familiarisés à la lecture de la Bible, il y a là un rapport. Jésus nous dit « Mon sang est vraiment un breuvage », et puis Jésus donnera toujours au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, il dira « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Pourquoi cela ? Or, le fruit de la vigne n'a d'autre nom que le raisin, mais... Le produit du raisin, c'est quoi ? C'est du vin. C'est du vin. À ce moment-là, Jésus était loin de choquer la conscience de ceux qui lui étaient restés fidèles. Parce que si je dis à quelqu'un, tiens, je te donne un verre de sang, je vais avoir des réactions. Mais si je lui dis, je te donne un verre de vin, c'est pas pareil, hein. Enfin, quoique, je dois le dire, à consommer avec... Ben, vous connaissez votre leçon, quand même. Eh oui. Tout le monde pouvait comprendre cette image quand il a tendu la coupe où il n'y avait pas du sang dedans, mais il y avait du vin. Tout le monde pouvait comprendre cette image. Tout vigneron sait pertinemment que le sarment qui est détaché du cep qui le nourrit se dessèche et meurt. Alors qu'est-ce que nous dit Jésus dans cette parabole de Jean chapitre 15 et au verset 6 ? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et on les brûle. Il y a une coupure, il y a une séparation entre le cep, le pied de vigne, et puis le sarment, qui est la branche, qui sont les branches, finalement. Un sarment ne peut grandir, se développer et porter du fruit qu'à la condition de rester fermement attaché et tirer sa survivance de son porteur, c'est-à-dire le cep. Qu'est-ce que j'ai là? Je suis en train de regarder s'il y a des plantes. Il y en a. Regardez, j'ai cueilli une fleur. Elle n'était pas difficile à cueillir parce que de toute façon, elle était déjà coupée. Mais cette fleur, elle est belle. Mais elle ne va pas durer longtemps. Parce que pourquoi? Elle est coupée de sa base, elle est coupée de la plante. Vous voyez? Elle va durer quelques jours, c'est tout. Bon, on va pouvoir l'admirer. Bon, on a l'habitude des fleurs coupées, hein. Mais, bon, une fleur, c'est très passager. Mais il y a certaines plantes qui vont durer, mais peut-être plusieurs semaines et plusieurs mois, parce qu'elles sont restées sur le pied. À partir du moment où vous coupez le plus beau des arbustes, un branchage, vous allez peut-être avoir 10 jours, 15 jours, 20 jours chez vous, et puis à un moment donné, vous allez jeter, parce que la vie va plus être alimentée. Mais si vous gardez cette fleur ou cette branche dans votre jardin sur la plante elle-même, eh bien vous allez avoir finalement une prolongation. C'est normal cela, et on le comprend tous. Et ça c'est quelque chose, c'est ce que Jésus. Le cep répand sa sève nourricière dans le sarment pour lui communiquer la vie. Et la vie c'est quoi? C'est les fruits. Parce que derrière les fruits, il y a le renouvellement aussi. C'est la vie qui continue avec le fruit, naturellement. Tout est à l'image du sang qui circule dans le corps pour lui donner ses bienfaits et pour le faire vivre. Dans l'atmosphère de la chambre haute, dont nous parlions tout à l'heure, qui était chargée de crainte à l'idée de la mort de Jésus, puisque Jésus avait laissé entendre qu'il allait bientôt mourir, eh bien, nous voyons que ça attristait profondément les disciples, ce que Jésus avait dit. Mais à un moment donné, au moment où il y a eu ce repas dans la chambre haute, il nous a dit que cette tristesse s'est changée, a fait place à une imperceptible espérance, quelque chose d'indéfinissable qui présage un événement sans précédent. C'est que le sang répandu qui donne la mort à Jésus, parce qu'il va mourir en perdant son sang, va devenir le sang de la vie, celui de la résurrection. D'une chose qui nous apparaît finalement inéluctable et d'une logique et d'un processus tellement naturel que quand on tue quelqu'un, il meurt, on lui fait couler son sang et il va mourir, Jésus est en train d'inculquer, d'instiller dans le cœur et dans la conscience de ses disciples, dans leur esprit, qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va apparaître. C'est pas la mort, mais c'est la vie. La vie. La vraie vie. Elle a un nom dans la Bible. La résurrection, la vie éternelle. Un seul doit mourir et donner sa vie, c'est-à-dire son sang. Alors tous, désormais, par la foi, vont partager symboliquement, finalement, ce que Jésus a annoncé pour avoir la vie. Par la foi. Parce que je le crois. Je suis sauvé ce matin, et vous êtes sauvé ce matin, parce que vous croyez que Jésus est votre sauveur, qu'il est mort pour vous, qu'il a fait l'expiation de vos péchés, et vous le croyez de tout votre cœur. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. J'ai pas besoin de faire prévaloir mes mérites, mes qualités de ceci et cela, si j'en ai quelques-unes, et de dire « Seigneur, tu peux me sauver, s'il te plaît, parce que je le mérite bien ». On n'est pas chez L'Oréal ici. Non, on ne mérite rien. On méritait la condamnation et la mort, et Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a donné la vie et le salut. Eh oui, tout simplement. Alors, il a donné sa vie, et par la foi, moi je crois que je suis sauvé. Je le crois de tout mon cœur, je n'ai pas à le remettre en doute. La communion au sang de Christ au travers de la Sainte Seine fait de nous des transfusés. Et nous ne sommes pas non plus des témoins de Jéhovah. Des transfusés. Et vous savez qui on transfuse? On transfuse les faibles, on transfuse les hémorragiques, et on transfuse les déficients, les opérés. Et qu'est-ce que l'homme, finalement, qui a dit qu'il était fort? Qui a dit que, finalement, eh bien, la vie était à lui et que la mort ne lui faisait pas peur? Mais nous sommes tous hémorragiques, quelque part. À cause du péché, à cause du mal qui existe dans le monde, à chaque fois dans le respect et la conscience de ce geste solennel, qui reste simplement un signe symbole ou l'emblème, la vie spirituelle se renouvelle, elle se répand en nous, elle inonde les endroits desséchés, elle irradie les cellules moribondes du mal qui est en moi et me fait participer et m'emporte dans le courant impétueux de la vie supérieure qui coule à flot, à cause de Jésus-Christ. Qui peut dire qu'il est en pleine forme ce matin? Physiquement, psychologiquement, moralement et spirituellement. Qui peut dire? Non. On a tous besoin de la vie de Christ en nous. Et il y a des aspects quelquefois sombres et ténébreux de notre vie. Il y a encore quelques atavismes, il y a encore quelques péchés, il y a encore ceci, il y a encore cela, il y en a encore. Et moi j'ai besoin d'être transfusé, j'ai besoin d'avoir la vie de Christ en moi. Parce que s'il vit en moi, comme dit Paul, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à travers moi. C'est ses sentiments, ce sont ses pensées, ce sont ses désirs, c'est sa volonté, c'est ses aspirations, c'est tout ce qui est bon et juste et saint. Et moi, je ne suis rien dans cette affaire. Je suis mauvais et méchant. Mais j'ai besoin qu'une vie vienne. Il est le cep et je suis les sarments, le sarment. Ce n'est pas le contraire. Et quelquefois, on s'est pris tellement pour ce qu'on n'était pas. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Toujours à ma disposition pour autant que je ne m'en prive pas et que je m'avance pour en saisir le bénéfice. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire qu'à chaque fois que vous venez là au repas de Sainte-Seine, que vous venez au culte et qu'il y a le repas de Sainte-Seine, et vous vous dites, oh, cette semaine a été difficile. Hein. J'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je me sens culpabilisé. Mais bien sûr. Alors vous avez le choix. Soit vous restez sur votre péché, et vous allez vous mortifier vous-même, vous allez vous punir vous-même, vous allez vous priver vous-même, vous allez vous condamner vous-même, et il y en a un qui se frotte les mains en disant pendant ce temps-là, « Je suis content, il ne bouge pas. Hein. » Et tranquille. Hein. Ou alors, à ce moment-là, je viens devant le Seigneur, et je vais lui dire, « Seigneur, tu vois, je viens, je suis pitoyable. Tu vois, j'ai encore dit pourtant qu'il y aurait ceci, cela qui changerait dans ma vie, pourtant ça n'a pas changé. Parce que je retombe toujours dans le même carcan de mes vieilles habitudes, de mes péchés, de mes points faibles, de mes manquements, de mes faiblesses. Et Seigneur, je viens devant toi, mais Seigneur, je te demande que tu me pardonnes, que tu me fasses grâce. On n'a pas besoin de confessionnal. Il suffit tout simplement de se tourner vers Jésus et de lui dire, mais Seigneur, voilà ce que je suis. Et je te fais pas la promesse pour la prochaine fois que je serai plus fort, parce que je sais pas si je serai plus fort. Mais une chose qui est certaine, c'est que je m'approche de toi, je te demande sincèrement, véritablement, authentiquement pardon, et je te demande que pour l'instant, tu me donnes, en prenant le pain et le vin, cette force, cette transfusion de vie nouvelle, pour que je résiste au péché, que je puisse être plus fort, mais par toi, pas par moi, par mes efforts, parce que j'y arriverai pas. Et trop souvent, nous nous appuyons sur nos efforts et notre volonté que de nous appuyer sur, finalement, par la foi, dans le savoir que Jésus a pris tout à ma place. Et à ce moment-là, je prends une coupe de bénédiction et de délivrance. Vous allez me dire peut-être, mais c'est trop simple tout ça. Eh bien, c'est peut-être ce que le Seigneur veut nous apprendre dans notre monde si compliqué. Voilà. C'est que nous, nous compliquons les choses. Seigneur, je ne peux pas chanter ce matin, je ne peux pas louer, je ne peux pas prendre la Sainte-Seine, je ne peux pas ceci. Je vais partir très vite pour ne pas saluer mes frères parce que j'ai tellement honte. Je suis tellement mal à l'intérieur de moi-même que je me sauve. Eh bien, sauvez-vous, mais vous sauvez devant la bénédiction de Dieu aussi. Hein. Seigneur, je crois que tu as fait et tu as accompli pour moi tout cela. Quel écho avec d'autres paroles telles que « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Seigneur, j'ai soif de ton pardon, j'ai soif de transformation, j'ai soif de régénération, j'ai soif de sanctification. Mais qui peut nous donner la sanctification sinon Jésus? Seulement lui? Alors si je me sauve devant lui, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus dira à la Samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous savez qu'il y a une belle petite histoire dans la Bible qui s'est passée dans un village de Galilée qui s'appelle Cana. Vous connaissez ce qui s'est passé à Cana? Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau changée en sang. Non, en vin. Merci de me le rappeler. À Cana, il s'agit d'une noce. Alors, vous faites quand même, on fait la différence entre une noce et un enterrement, hein. C'est quand même deux choses différentes. C'était une noce, un mariage avec de la musique joyeuse et de la gaieté partout, tout autour, parce qu'il y avait un jeune homme et une jeune fille qui se mariaient. C'est formidable. Et depuis, on n'a rien changé à la méthode. C'est comme ça. Hein. Tant qu'il y aura des jeunes gens et des jeunes filles qui se marieront, eh bien, merci Seigneur. On va peut-être voir autre chose. Alors, nous pouvons, en raison de Cana, nous approcher de la table de l'alliance, la table de la Sainte Seine. Et il y a David, qui ne connaissait pas Jésus naturellement, hein. Mais le roi David a écrit cette parabole, enfin cette pensée, dans le psaume le plus connu de la Bible, le psaume 23. « Tu dresses devant moi une table et ma coupe est asséchée. » Je teste pour voir si vous êtes encore avec moi ce matin. Ça va ? Alors, et ma coupe déborde et profitez pleinement au pain et au vin partagés dans un esprit de joie. En déchargeant nos fardeaux, en livrant nos culpabilités, en confessant nos péchés, car ce n'est pas la mort que nous célébrons, mais c'est la vie. Frères et sœurs, nous célébrons la vie. Dans nos églises, nous célébrons la vie. Et je veux qu'il y ait la vie. Je désire qu'il y ait la vie au milieu de nous. On est trop rentré dans des églises que l'on a mis dans l'obscurité avec des petites lueurs, des petites bougies, et qui sentent plus le cimetière que la vie. Excusez-moi. Je sais ce que je dis, hein. Nous, on a mis de la lumière. On a fait des éclairages. C'est formidable, hein. Et il faut de la lumière parce que nous savons et nous suivons celui qui est la lumière. Et on n'a pas besoin, en parlant de matière religieuse, de mettre les gens dans l'ombre. Il faut les mettre dans la lumière de Jésus. Alors, nous célébrons la vie. Et mes frères et mes sœurs qui êtes là, qui êtes venus ce matin, vous n'êtes pas venus pour la tristesse, mais vous êtes venus pour célébrer la vie et la joie en Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Et vous l'avez bien chanté. Qu'est-ce qui était dit ? Jour de joie, jour de victoire. Et après la suite, Kader. Il étend sa main d'en haut et il me retire des eaux bouillonnantes et tourbillonnantes et des eaux sombres, des abysses. Voilà, exactement. Alors on le chante, mais entre le chanter et y mettre notre cœur et de dire merci Seigneur, parce que vraiment, c'est extraordinaire et formidable. Alors, vous savez qu'une église joyeuse va attirer des gens. Une église triste, les gens vont regarder, ils vont rentrer pour la première fois en disant « Oh, ils sont tristounés là-dedans, moi j'y vais pas. » Bah, tout en restant chrétien et spirituel, souriez. Très bien. Ça fait marcher, il paraît, nos zygomatiques. Voilà. Mais on n'a pas besoin de faire un sourire commercial, il faut que ça vienne du cœur, et c'est la vie, c'est la joie qui est communiquée. Nous célébrons la vie, une vie nouvelle d'où jaillit la bénédiction et la délivrance. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 16, l'apôtre Paul l'affirmera à son tour, il dira « Mais la coupe de bénédiction ». Bénédiction, vous savez ce que ça veut dire ? Béné bien, diction, dire le bien. Quand nous prenons la coupe et que nous prononçons la mort de Jésus et sa résurrection et qu'il est venu pour nous donner la vie, nous disons le bien. Bénédiction, dire le bien. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Dans le psaume 116, verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Pas dans le psaume, non pas encore Jésus, mais ça va venir. Hein, mais c'est le nom de l'Éternel, le nom de mon Dieu. Après chaque repas de Sainte-Seine, nous célébrons la mort. Nous célébrons non la mort, mais nous célébrons la vie. Frères et sœurs, moi je me tiens à la porte. C'est pas le sourire qu'il me faut me faire. À moi, vous pouvez me faire toujours un sourire, ça me fait toujours plaisir. Mais une chose qui est certaine, moi ce que je voudrais de tout mon cœur, c'est que vous repartiez, quand vous venez aux réunions, que vous repartiez dans la joie. Parce que vous avez rencontré non pas le pasteur, mais vous avez rencontré Jésus. Vous avez rencontré sa parole, vous avez été mis en contact avec sa parole parce qu'elle est vivante et c'est une grâce de Dieu. Et le dimanche matin, quand il y a la coupe, je peux dire merci Seigneur, parce que véritablement tu es mort pour moi, tu as pardonné mes péchés. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, mais Seigneur, tu as joué le jeu avec moi et tu me donnes encore et tu me renouvelles ta grâce pour que j'aille jusqu'au bout de ma vie. Seigneur, tu es merveilleux. Mais il est merveilleux le Seigneur. Enfin, je ne sais pas comment vous le dites, mais moi je trouve qu'il est merveilleux, il est extraordinaire. Il est sublime. À chaque repas de Sainte-Seine, nous célébrons la vie, celle de toutes les victoires. La victoire sur la maladie, la victoire sur mes maladies physiques. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et les meurtrissures, il y a toujours du sang dans une meurtrissure, quelque part. Tant qu'on touche au corps de l'homme et qu'on perce des vaisseaux ou une veine ou une artère, eh bien il y a du sang. Et c'est finalement la célébration de toutes les victoires, physiquement, moralement, Moi, j'ai vécu des années et des années dans un état de dépression. Et je peux vous dire qu'il y a eu vraiment une transformation de la vie, de ma vie. Parce que si vous voulez la délivrance, approchez-vous de Jésus. Il est votre vie, il va vous communiquer la joie et la paix. Eh oui. J'ai pas l'air trop triste hein, quand même, ça va? C'est pour dire hein, que le Seigneur, quand il fait les choses, il les fait bien. C'est extraordinaire, merveilleux. Et moi, j'en profite pour confesser que le Seigneur guérit. Le mot de la fin revient à l'apôtre Jean, quand dans son épître, il écrit ceci. 1 Jean, chapitre 5. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, avec le sang. L'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit dit la vérité. Il y a sur les paroles que nous avons entendues ce matin, il y a l'Esprit de Dieu qui dit « Amen ». Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. C'est vrai, c'est la vérité. Ou Jésus le dira, en vérité, en vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie, comme dit Jésus dans Jean. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pour ça que nous avons commencé avec une notion de scandale en disant « mais boire le sang ». Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Si je les comprends au pied de la lettre, alors là c'est mortel, c'est terrible, c'est scandaleux, c'est outrageant. Mais si je les comprends par la vie de l'Esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi et la vie de l'Esprit qui est à travers la parole, alors à ce moment-là, mais ça me donne une autre vision, une autre dimension. De libération, de liberté, de paix, de joie, de bonheur. L'eau, c'est le rappel du baptême et de la fidélité de Dieu quand je me suis engagé. Ça vous rappelle rien ? Le sang, c'est l'emblème sous le signe du vin qui évoque la vie, la joie, le miracle qui commence par une transformation pour ouvrir sur une voie de résurrection. Pour l'instant, on est au stade de la transformation, de la régénération et de la sanctification. Mais il viendra un temps, mes frères et mes sœurs, où nos yeux verront. Où là, nous pourrons contempler la gloire de Jésus dans une dimension qui est finalement au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Eh oui, parce que Jésus est mort à la croix du calvaire. Et heureusement, il a donné son sang pour chacun d'entre nous. Alors le sang ne me donne pas la mort, le sang me donne la vie. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons nous approcher du repas de Sainte-Cène maintenant et demander au Seigneur que nous puissions vraiment peut-être rentrer dans une nouvelle dimension d'approche du Seigneur. Et mes frères et mes sœurs, vous avez péché cette semaine. Moi, j'ai péché, certainement, probablement. Mais je veux m'approcher du Seigneur en disant, Seigneur, je te demande pardon. Et je ne sais pas si la semaine prochaine, je ne vais pas pécher encore. Mais je te demande de me donner ta force, de me donner ta vie, de mettre véritablement en moi. Et vous souvenez-vous, hein? Je l'ai dit et je le martèle, que le Seigneur n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Alors s'il est en nous, ça change beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Recevez sa paix, recevez sa joie, recevez sa vie. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Ce matin, ma pensée va particulièrement pour ceux et celles qui sont malades. Pour ceux, Seigneur, qui sont souffrants. Qui sont peut-être sur un lit alité, qui sont peut-être dans des établissements de santé ou qui sont au milieu de nous et qui là, Seigneur, se traînent misérablement, pitoyablement parce que finalement, eh bien, ils ont des douleurs, ils ont des souffrances du corps mais les souffrances de l'âme et ils crient à toi, ils se disent « Mais Seigneur, délivre-moi, guéris-moi ». Eh bien, Seigneur, je veux te demander, Seigneur, que s'il te plaît, tu as entendu leur prière puisque quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors, Seigneur, je te demande de visiter, de bénir particulièrement ceux et celles, Seigneur, qui vont se lever, qui vont venir au repas de Sainte-Cène, et de leur faire du bien, Seigneur, parce que ce sont des enfants de Dieu. Et puis, peut-être au milieu de nous, des hommes et des femmes qui, peut-être, resteront tout simplement assis sur leur chaise, mais qui vont saisir à ce moment-là le passage du Saint-Esprit, la présence de Jésus, et qui vont en bénéficier, Seigneur, par la foi, en recevant par la foi de la guérison, de la santé, de la délivrance, de la paix de Dieu. Merci mon Sauveur. Merci Jésus. Amen.